Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 13 octobre 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Tout d'abord, les titres. Au Tchad, Saleh Kebzabo, opposant historique au défunt Idriss Déby Itno, nommé Premier ministre. Ebola en Ouganda, le président Yoweri Museveni ordonne aux guérisseurs traditionnels de cesser de soigner les malades. Éthiopie, 6 pays occidentaux appellent à la fin des hostilités au Tigré, 500 morts et 1,4 million de déplacés depuis juin, tel est le bilan des inondations au Nigeria. Ukraine, renforts occidentaux de défense antiaérienne face aux bombardements russes. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, Saleh Kebzabo, ancien opposant, a été nommé mercredi Premier ministre de transition. Il va coordonner un gouvernement d'union nationale qui n'a pas encore été dévoilé, Mohamedou Humfa.
Saleh Kebzabo, 75 ans, ancien journaliste, quatre fois candidat à la présidentielle, est nommé premier ministre selon un décret signé par le chef de l'État, Mahamad Idriss Déby Itno. Deux cadres de son parti, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, avaient déjà rejoint en mai 2021 le premier gouvernement de transition nommé par la junte. Mahamad Déby avait nommé M. Kebzabo vice-président du comité d'organisation du dialogue national, boycotté par une très grande partie de l'opposition politique et certains groupes armés. Après sa nomination hier, M. Kebzabo a promis d'accompagner le chef de l'État dans une grande œuvre les deux prochaines années pour la transition politique en répondant à des questions de journalistes devant son domicile. Mahamad Déby s'était engagé lundi à nommer dans les tout prochains jours un gouvernement d'union nationale. M. Kebzabo a été plusieurs fois ministre du défunt président Idriss Déby dans les années 1990 quand son parti a signé un accord avec le parti au pouvoir à l'époque avant de claquer la porte en 1996.
Et puis, le président Yoweri Museveni a ordonné mercredi aux guérisseurs traditionnels de cesser de soigner les malades. L'objectif est de stopper la propagation d'Ebola, qui a déjà coûté la vie à 19 personnes dans ce pays. Dans un discours télévisé à la Nation, il a également ordonné aux responsables de la sécurité d'arrêter toutes les personnes soupçonnées d'avoir contracté la fièvre hémorragique, souvent mortelle si elle refuse de s'isoler. Sa ministre de la Santé a de son côté signalé un cas mortel à Kampala, la capitale. Par ailleurs, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a annoncé que des essais cliniques de vaccins contre Ebola pourraient débuter dans les prochaines semaines en Ouganda, où l'on met en cause une souche venue du Soudan. Les États-Unis et d'autres puissances occidentales encouragent le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens à entamer des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Ils demandent aussi à l'Érythrée voisine de retirer ses troupes du champ de bataille. Abdulrahman Dia.
Dans une déclaration commune, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas se sont dit profondément préoccupés par la rupture de la trêve de 5 mois fin août et ont déclaré que les belligérants doivent cesser leur offensive. Le texte indique qu'il n'y a pas de solution militaire au conflit, appelant le gouvernement éthiopien et les autorités régionales du Tigré à participer aux pourparlers menés par l'Union africaine afin d'aider l'Éthiopie à instaurer une paix durable. Les pays occidentaux ont mis en garde contre les abus commis par toutes les parties, y compris l'Éthiopie, le Front populaire de libération du Tigré et l'Érythrée, qui soutient le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Les rebelles ont accepté, après de longues hésitations, la médiation de l'Union africaine, après avoir exprimé des inquiétudes quant à la grande proximité de l'organisation avec Addis Abeba. L'Union africaine avait invité les deux parties à s'asseoir à la table des négociations en Afrique du Sud le week-end dernier, mais les pourparlers n'ont pas eu lieu en raison de problèmes logistiques selon des diplomates.
Plus de 500 personnes sont mortes depuis juin dans les inondations les plus meurtrières de la décennie au Nigeria, provoquées par des pluies exceptionnelles forçant 1,4 million d'habitants à fuir leur foyer. Les précisions de John Linden.
Plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées, environ 500 sont déclarées mortes et 1500 autres blessées dans les inondations, a affirmé mardi le ministère nigérian des Affaires humanitaires. La saison des pluies commence généralement en juin, mais les inondations ont été particulièrement meurtrières entre août et septembre, affirme un porte-parole de l'Agence nationale de gestion des urgences. Depuis le début de la saison des pluies, de nombreuses régions du pays le plus peuplé d'Afrique ont été ravagées par les inondations, faisant craindre une aggravation de l'insécurité alimentaire et de l'inflation. Des nouvelles précipitations sont attendues au Nigeria dans les prochaines semaines et l'on craint davantage de dégâts. En 2012, des inondations avaient fait au moins 363 morts et plus de 2 millions de déplacés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ukraine, très tôt ce matin, la Russie a frappé la capitale Kiev avec des drones de fabrication iranienne, a annoncé le chef de l'administration présidentielle de l'Ukraine, qui, mercredi, a affirmé avoir repris plusieurs localités aux Russes dans le sud du pays et salué le soutien réaffirmé de ses alliés occidentaux, qui ont promis de livrer dès que possible des moyens de défense anti-aérien après des bombardements russes intensifs. Un groupe d'une cinquantaine de pays dirigé par les États-Unis a tenu des discussions au siège de l'OTAN à Bruxelles après que le président russe Vladimir Poutine a déclenché de tels bombardements. Eric Manirakidza.
Les systèmes seront fournis aussi vite que nous pourrons physiquement les acheminer sur place, a déclaré le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin après la réunion. La détermination des alliés de l'Ukraine à soutenir Kiev a été renforcée par la cruauté délibérée du nouveau barrage russe contre les villes ukrainiennes, a ajouté M. Austin. Un premier système de moyenne portée Iris-T est arrivé en Ukraine après que l'Allemagne a décidé de l'expédier avant même de le donner à ses propres troupes. Les États-Unis ont déclaré qu'ils cherchaient à accélérer la livraison de leurs systèmes antimissiles et antidrones NASAM à Kiev et un premier lot de deux est attendu dans les semaines à venir. La livraison de six autres unités pourrait prendre beaucoup plus de temps. Les puissances occidentales affirment n'avoir constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de Moscou qui pourrait laisser penser qu'il se prépare à lancer une attaque. Elles ont mis en garde Moscou contre le déploiement d'une petite bombe atomique tactique en Ukraine.
Signalons aussi que l'Assemblée générale de l'ONU a condamné jeudi les annexions illégales de territoires de l'Ukraine par la Russie après le veto opposé par Moscou sur un texte similaire présenté au Conseil de sécurité. La résolution a été adoptée avec 143 voix pour, face à 5 pays contre et 35 qui se sont abstenus, parmi lesquels la Chine, l'Inde, le Pakistan et l'Afrique du Sud, malgré des efforts diplomatiques des États-Unis. La Corée du Nord a testé 2 missiles de croisière stratégiques à portée à longue portée en présence du dirigeant Kim Jong-un, ont rapporté jeudi les médias officiels qui ont précisé qu'ils étaient conçus pour transporter des armes nucléaires tactique. Des balles et du gaz lacrymogène ont été tirés lors de manifestations mercredi en Iran contre la mort de Mahsa Amini. Des protestations vivement réprimées depuis près d'un mois dans lesquelles plus de 100 personnes ont péri, dont des enfants selon des ONG. La jeune Mahsa Amini est décédée le 16 septembre, 3 jours après son arrestation par la police des mœurs, pour avoir, selon cette dernière, enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique pour les femmes, prévoyant notamment le port du voile. Alex Jones, figure du complotisme d'extrême droite ici aux États-Unis, a été condamné mercredi à payer presque un milliard de dollars, oui, presque un milliard de dollars de compensation à des familles de victimes d'un massacre dans une école dont il avait nié la réalité. La planète a perdu en moyenne près de 70% de ses populations d'animaux sauvages en une cinquantaine d'années, selon l'évaluation des références du WWF, le Fonds mondial pour la nature, publié jeudi et qui pointe le lien de plus en plus marqué entre perte de biodiversité et réchauffement climatique. La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
En République démocratique du Congo, le dépouillement des candidatures pour les trois blocs gaziers du lac Kivu dans l'Est a eu lieu en direct à la télévision nationale. Une dizaine de sociétés et consortiums ont manifesté leur intérêt lors d'un processus d'appel d'offres que le gouvernement a promis public, transparent, impartial et concurrentiel. Aucun acte de corruption ne sera toléré, a assuré Didier Boundimbou, le ministre congolais des hydrocarbures. Le programme des Nations Unies pour le développement appelle à l'allègement immédiat de la dette de 54 pays qui abritent plus de la moitié des plus pauvres du monde et sont très vulnérables au changement climatique. En Afrique, les pays les plus menacés dans l'immédiat sont la Tunisie, le Tchad et la Zambie. Les ministres des Finances du G7 se réunissent cette semaine à Washington, aux États-Unis, en marge des réunions annuelles du FMI qui se tiennent en présentiel pour la première fois depuis 2019. Ils devraient tenter de trouver un accord sur un plafonnement du prix du pétrole russe et une aide supplémentaire à destination de l'Ukraine.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite hier des matchs de la quatrième journée en Ligue des Champions en Europe.
Oui, Liverpool a étrié les Rangers à Glasgow, 7-1 avec un triplé. Le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions inscrit par l'Égyptien Mohamed Salah. Mo Salah porte ainsi son total de buts en Ligue des Champions à 38, faisant de lui le joueur le plus prolifique dans la compétition pour un club de Première Ligue. 3-3 entre le FC Barcelone et l'Inter Milan. Remplaçant Franck Kessier est entré en cours de match. Belle opération pour Marseille d'Éric Bailly. 2-0 devant le Sporting Portugal. 4-2 pour Naples face à l'Ajax avec un but du Nigérien Victor Osimhen. Le Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba s'est incliné 3-0 devant le FC Porto. 4-2 pour le Bayern Munich face au Victoria Plzen avec un but de Sadio Mané. 5 équipes sont assurées de disputer les 8e de finale à l'issue des matchs de la 4e journée de cette phase de poule. Il s'agit de Manchester City, du Real Madrid, de Naples, du club Bruges et du Bayern Munich. La 5e et avant-dernière journée de la phase de groupe aura lieu les 25 et 26 octobre prochains.
Les droits télé en Allemagne multipliés par 16 pour la Bundesliga féminine à partir de 2023.
L'annonce a été faite par la Fédération allemande de football à partir de l'exercice 2023-2024 et jusqu'en 2027. Les revenus issus des droits télé pour la Bundesliga féminine apporteront chaque saison 5,17 millions d'euros bruts, soit une multiplication par 16 par rapport à la période en cours. Jusqu'à l'été 2023, la répartition du pactole entre les 12 clubs de première division doit encore être décidée par les instances du football allemand.
Nouveau témoignage contre le président de la Fédération française.
De nouveaux témoignages anonymes d'ex-salariés de la Fédération française de football évoquent un comportement inapproprié de son président Noël Le Graët. C'est ce que révèle une enquête de Radio France que l'intéressé conteste fermement, dénonçant des allégations mensongères et malveillantes. L'enquête, qui cite anonymement plusieurs anciens employés, fait état d'un climat sexiste et de comportement misogyne à la Fédération française de football, voire de cas de harcèlement. Dans un de ses témoignages, une ex-salariée dénonce les manières lourdingues de Noël Le Graët, comme des invitations à répétition pour venir dîner avec lui. Cette mission d'audit déclenchée le 16 septembre fait suite à l'apparition dans le magazine SoFoot d'un article mettant en cause la Fédération française de football et son président, accusé d'avoir adressé des SMS à caractère sexuel à des employés. Le patron de la FFF, 80 ans, en poste depuis 2011, est depuis dans la tourmente.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, Saleh Kebzabo, opposant historique à l'ancien président Idriss Déby Itno décédé en 2021, a été nommé mercredi Premier ministre par le général Mahamat Déby Itno au pouvoir depuis la mort de son père. Il s'agit du premier acte d'une nouvelle période de transition de 2 ans confiée au jeune général par le dialogue national inclusif et souverain. M. Kebzabo, 75 ans, un ancien journaliste, a été 4 fois candidat à la présidentielle contre feu le maréchal Déby. Sa nomination au poste de Premier ministre est diversement appréciée par les Tchadiens, nous dit Ndjamena, notre correspondant André Kotmadjingar.
C'est une nomination récompense politique par rapport aux efforts déployés par cette tension opposante qui a rallié avec effet et bagage au Conseil militaire de transition.
Ahmad Mahamat Hassan, constitutionnaliste indépendant et ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Toutefois, il estime que c'est un bon choix qui aura de retomber dans l'apaisement de la politique devant aboutir à l'organisation des prochaines séances pour le retour à l'ordre constitutionnel par des élections libres et démocratiques.
Cette nomination va très bien par rapport à la nouvelle charte de transition qui prône une présidence à M. Mahamat Idriss Déby Itno, mais avec un premier ministre autrement de l'opposition, ça serait un problème de crise à la tête de l'exécutif et ça serait une crise très dangereuse pour le Tchad. Et nous sommes dans une situation de conservation de pouvoir et de légitimation et il faudrait créer cette alliance pour avoir une transition apaisée et consensuelle.
Pour certains citoyens tchadiens, la nomination de cet homme à la tête de la primature est un non-événement.
La nomination de Kebzabo, c'est quelque chose qui est arrangé depuis dehors. Alors c'est pas aujourd'hui qu'on va nous faire ça. Nous, on connaît bien ça. On est fatigué de ça.
Qu'est-ce qu'il a comme programme? Qu'est-ce qu'il pense réellement réaliser en étant Premier ministre? Je suis juste sidéré, quoi.
Saleh Kebzabo, c'est un traître. En 14 ans, il a vendu le pays. On l'a rien dit. Un opposant qui devient Premier ministre, qu'est-ce qu'on va dire sur ça?
Emmanuel Nadingar, ancien Premier ministre du régime du feu maréchal, estime que Saleh Kebzabo est une compétence qui peut aider le général Mahamat Idriss Déby Itno à exécuter les résolutions du dialogue national.
Je dirais que Saleh Kebzabo est un homme politique du Tchad depuis l'indépendance. Donc c'est un homme qui a la connaissance de l'ensemble des problèmes, des enjeux qui sont dans le pays. Tout dépendra maintenant de toute sa volonté engagée auprès du président et également des hommes qu'il aura choisis et qui répondront aux défis dans son gouvernement.
Sosten Bernoudi, coordonnateur du mouvement citoyen pour la préservation des libertés, ne partage pas cet avis. Pour lui, les Tchadiens ne peuvent pas espérer à un changement.
Je constate que c'est un choix raté. Kebzabo fait partie de la génération de ceux qui ont montré leurs limites dans la gestion de ce pays. Moi, je pense qu'il faut du sang neuf pour que ce pays aspire à un vrai changement. C'est vrai, il a été un très bon journaliste, un très bon politicien, mais à travers l'accord de Doha et le dialogue national inclusif, il a montré son vrai visage.
Le nouveau Premier ministre Saleh Kebzabo est un fin stratège qui maîtrise bien le paysage politique tchadien pour avoir milité dans presque tous les grands regroupements des partis politiques de l'opposition. Il serait peut-être plus aisé pour lui de former son gouvernement d'union nationale. Toutefois, il aura des difficultés à convaincre ses compagnons de lutte d'hier, notamment les leaders de la coalition Wakitama, le parti Les Transformateurs et le groupe de réflexion de l'appel du 1er juin, principaux opposants du régime de transition. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les derniers militaires français encore présents en République centrafricaine vont quitter le pays dans les prochains mois. L'annonce en a été faite aux autorités centrafricaines par la partie française. Pour les réactions des centrafricains à cette annonce, nous avons de Bangui notre correspondant Freeman Sipila.
Les rumeurs du retrait total des forces françaises de la République centrafricaine circulaient depuis quelques mois déjà. Mais l'annonce officielle a été faite récemment au ministère centrafricain de la Défense par les autorités françaises. Dans les rues de Bangui, les réactions divergent.
Moi, je ne suis pas d'avis pour le retrait définitif des forces françaises en République centrafricaine. Parce que eux, ils constituent nos partenaires clés.
La France n'est pas un ami singulier de la RCA. Nous sommes encore si fragiles et avons besoin des appuis des uns et des autres.
Cette annonce, pour nous, c'est un non-événement. On ne voit pas l'utilité de l'armée française en Centrafrique. Ils apportent rien de concret pour la population centrafricaine.
Officiellement, la France ne dispose pas de troupes opérationnelles en République centrafricaine. Sa dernière présence militaire active remonte à l'opération Sangariste qui a plié bagage en 2016. Les quelques 100 militaires encore présents dans le pays appartiennent à une mission logistique et dépendent des éléments français basés au Gabon. Pour qu'elle, Kaigama, femme leader, ce retrait pourrait être l'occasion de tester la performance de la présence française en République centrafricaine.
C'est quand même dommage de se séparer brutalement après 62 années de cohabitation et d'appui multiforme d'un ami comme la France. Peut-être aussi c'est un repli stratégique qui va permettre peut-être à la RCA de mesurer l'efficacité des forces françaises. Peut-être la France aussi a anticipé sur certains faits et a décidé de ce fait de se retirer. Ça peut être une autre stratégie.
Depuis plusieurs mois, certaines organisations politiques comme Galaxy Nationale appellent au retrait des forces françaises du pays. Cette organisation avait même menacé de s'en prendre physiquement aux militaires français lors des déplacements dans la capitale. Une marque d'ingratitude, selon le conseiller économique et social Mike Bilouen.
Je suis troublé aujourd'hui de voir des manifestations anti-françaises dans lesquelles certains compatriotes ont même demandé le départ des militaires français. Cela en courte mémoire. Parce qu'en 2013, si l'armée française n'était pas là, ça devait être vraiment catastrophe. Et nous devons être vraiment reconnaissants.
Gervais Lacosso, activiste de la société civile, s'interroge sur les raisons de ce départ annoncé.
C'est vrai que sur le plan tactique, sur le plan stratégique, ça peut nous coûter un peu. Mais à la langue, ça peut nous pousser à nous prendre en main nous-mêmes.
Pour le moment, la date exacte du retrait de ces militaires français n'est pas encore connue. De leur côté, les autorités centrafricaines se réservent pour l'instant de commenter cette décision. Les relations entre Paris et Bangui ne sont plus au beau fixe ces dernières années. En cause, la présence des forces russes aux côtés de l'armée nationale centrafricaine qui combat des groupes armés dans certaines régions du pays. Frimansi Pila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Rentrée scolaire officielle au Sénégal, mais sur le terrain, beaucoup d'élèves n'ont pas encore rejoint les classes. Certains parents n'ont pas les moyens pour faire face à la cherté des inscriptions et des fournitures scolaires. Et puis, 45 000 enseignants supplémentaires seront nécessaires, selon la COSIDEP, l'une des ONG phares en matière d'éducation. Loin de tous ces remous, les enfants profitent de leur retrouvaille, nous dit de Dakar notre correspondant Sédina Abagay.
Je suis content de voir mes amis. Je vais être le premier dans ma classe pour passer la classe supérieure.
Le bonheur de Abou Kamara contraste fortement avec le visage de Adama Mbadjène. Cette mère de famille, rencontrée dans la cour de l'école primaire Skaturbam à Dakar, est venue régler les papiers de sa fille qui doit être transférée dans le sud du pays pour cette année scolaire. Une charge de plus pour cette maman qui, comme beaucoup de parents d'élèves, est confrontée à la conjoncture.
C'est très difficile, mais nous rendons grâce à Dieu. Les fournitures sont extrêmement chères et nous sommes obligés de regrouper les livres des années précédentes pour les échanger. Et même avec ça, les fournitures ne sont pas au complet. Mais l'essentiel, c'est que les enfants aient quelque chose pour commencer les cours.
Des difficultés financières qui poussent souvent des parents à reporter l'inscription de leurs enfants, comme l'explique Abdul Aziz Cissé, directeur de l'école primaire Skaturbam.
Le 6, effectivement, nous avons été en classe, nous sommes bien rentrés en classe. Maintenant, par rapport au taux, quand même ça, il faut remarquer quand même qu'on n'avait pas un grand rush. Beaucoup de parents ont préféré attendre peut-être le début de cette semaine-ci pour pouvoir amener les enfants. Mes enseignants également étaient là, hein. Dieu merci.
Des enseignants qui sont en sous-effectif dans cet établissement, comme dans beaucoup de zones du pays.
Moi, j'ai 12 classes. En principe, je devais avoir 12 enseignants. Mais maintenant, depuis l'année dernière, parce que j'ai eu un départ, je fonctionne avec 11 enseignants.
un bémol révélé par des organisations et qui avait suscité une vive polémique entre la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique, COSIDEP, et le ministère de l'Éducation nationale. Le directeur exécutif de la COSIDEP persiste sur la nécessité de recruter beaucoup plus d'enseignants.
Il parle de déficit, nous on parle de besoin. Quand le ministère parle de déficit, ils agissent en gestionnaire. Quand on parle de besoin de 45 000 enseignants, nous ne sommes pas dans la gestion, mais nous sommes dans la planification. Ça veut dire que nous réfléchissons sur les ratios de qualité qui sont connus au Sénégal. Un enseignant pour 45 élèves, vous avez dans les classes un enseignant pour 80 à 100 élèves. Donc si nous devons corriger ça pour avoir des ratios de qualité où l'enseignant peut suivre chaque enfant, il faut recruter plus.
Déficit ou pas, le besoin en enseignant est là et se fait sentir au sein des établissements. Mais pour les parents d'élèves comme pour leurs enfants, le souhait est le même. Avoir une année scolaire apaisée, sans interruption, pour rehausser le niveau des élèves et le taux de réussite aux examens de fin d'année. C'est Dina Bagué à Dakar pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exhorte les parlementaires du monde entier à contribuer davantage à la résolution des défis qui préoccupent le monde actuel. Il a lancé son appel alors que se tient au Rwanda la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire. De Kigali, les détails avec Jean Damasène Manishimwe.
Pendant 5 jours, ces parlementaires doivent échanger sur plusieurs thématiques qui constituent des véritables défis du monde actuel. Les participants reviennent en particulier sur les droits de la femme, qui ne sont pas respectés dans la plupart des pays, comme le fait observer ce parlementaire guinéen.
Malgré la supériorité numérique des femmes au sein de la population mondiale, la femme demeure victime de discrimination dans les domaines du travail, des soins de santé et de l'éducation. Elle continue à subir la violence physique et sexuelle. Elle est maintenue, malgré sa bravoure dans le combat quotidien contre le mal-être, dans la catégorie de sous-représentation dans les organes de gestion et de décision et au poste de pouvoir politique et économique.
De l'avis de certains, les femmes parlementaires doivent servir d'exemple dans ce combat pour le respect des droits de la femme. Espérance Nira Safari est vice-présidente du Sénat rwandais.
En tant que femmes leaders, nous devons servir d'exemple et d'inspiration pour les jeunes femmes et filles partout dans le monde. Nous devons faire en sorte que l'autonomisation des filles et femmes soit toujours notre priorité et que leurs droits soient toujours et partout protégés et respectés, garantissant ainsi un futur égalitaire pour nos sociétés.
Le président de l'Union interparlementaire, Duarte Pacheco, estime pour sa part qu'il est plus que temps de passer à l'action en privilégiant ce qui améliore la vie des gens.
We are in a special moment.
Nous sommes dans une période spéciale dans notre monde. Le changement climatique prend de l'ampleur et ses conséquences sur la mort des milliers de personnes. La vague de chaleur et les feux de forêt sans précédent ravagent l'Europe ou l'Australie. Le désert s'élargit en Afrique. Et en plus de ça, plus de gens souffrent de la pauvreté. Les inégalités s'aggravent. Les gens vivent pire qu'avant. Nous avons besoin de passer à l'action maintenant et non demain. Les gens que nous représentons sont fatigués des discours. Et nous devons agir maintenant.
And we need to act now.
Même son de cloche pour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui invite les parlementaires à s'investir pour que le monde soit beaucoup plus viable. Je vous exhorte à fixer l'ambition de faire en sorte que partout, les femmes aient le droit de siéger dans les instances de prise de décision comme les hommes. Nous comptons sur vous pour résoudre les défis de l'égalité du genre, mobiliser des ressources pour faire face à la crise de la faim et aux urgences humanitaires en vue de promouvoir le développement durable et réaliser l'agenda 2030. Le thème retenu pour la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire est l'égalité des genres et les parlements sensibles au genre comme vecteur de changement pour un monde plus résilient et plus paisible. Jean Damasène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Fatouma Kalala Alimassi, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.